SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Il est 13h. Avec vous ce mardi, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet pour une heure en français. Et au programme de ce mardi 4 juin, le journal Les Sports avec Christophe Mallet. À la une de l'actualité de ce mardi 4 juin, les ressortissants étrangers pourront bientôt postuler pour les forces de défense australiennes. La candidate du Parti libéral pour la circonscription de Kooyong, Amelia Hamer, a déclaré qu'elle était déterminée à représenter sa communauté après les spéculations selon lesquelles Josh Frydenberg, l'ancien trésorier de la coalition, se présenterait à nouveau pour le siège. Et puis en Belgique, 23 jours de pluie au mois de mai. C'est un record. Les Néo-Zélandais, les Américains et les Britanniques vivant en Australie pourront bientôt être recrutés dans les forces de défense australiennes dans le cadre du plan de stratégie de défense nationale du gouvernement visant à élargir le recrutement. Les non-citoyens qui souhaitent postuler pour les forces de défense doivent avoir vécu en Australie pendant au moins un an, ne pas avoir servi dans une armée étrangère et doivent pouvoir demander la citoyenneté australienne. Une fois qu'ils auront servi 90 jours, les recrues devront devenir citoyens australiens. Le ministre des Anciens Combattants, Matt Keogh, a déclaré que les forces de défense continuent de constater un déficit par rapport aux objectifs croissants en matière de personnel. Il a déclaré que le recrutement de ressortissants étrangers n'est pas le seul moyen utilisé par le gouvernement fédéral pour stimuler le recrutement.
Currently it's about 4,400 people that we are down from the projected target for recruitment, and that's a deep concern to the government, and that's why we've taken a number of steps, including modernising our physical health and other fitness requirements for joining the Defence Force. That's opening up a pathway for about an additional 2,000 people.
La candidate du Parti libéral pour la circonscription de Kooyong, Amelia Hamer, a déclaré qu'elle était déterminée à représenter sa communauté après les spéculations selon lesquelles Josh Frydenberg se présenterait à nouveau pour le siège. L'ABC a rapporté que Josh Frydenberg reconsidérait sa décision de ne pas se présenter à la présélection pour le siège de Kooyong qu'il a perdu face à la députée indépendante Monique Ryan en 2022. L'ancien trésorier a depuis exclu un retour, affirmant qu'il ne se précipite pas pour revenir en politique et qu'il soutiendra Madame Hamer lors des prochaines élections fédérales. Amelia Hamer a déclaré sur Channel 9 que son électorat ne s'inquiétait pas de la politique interne au sein du Parti libéral.
They're telling me that they're really struggling at the moment. And people in this community are actually really struggling with the cost of living. They're struggling to pay the mortgage. They're struggling to pay their rent. I know my rent's gone up significantly. I'm a renter. And, you know, I'm just having those conversations with people every day because in the end, you know, over the last 2 years, Australians are almost 10% poorer, 8% poorer than they were 2 years ago. And I think everyone's really feeling that.
Quelques Australiens tentent toujours de quitter la Nouvelle-Calédonie. Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce indique qu'entre 5 et 10 Australiens qui souhaitent partir n'ont toujours pas pu le faire. Ils représentent environ 150 Australiens toujours en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement australien a aidé 454 Australiens, résidents permanents australiens et leurs familles à quitter la Nouvelle-Calédonie à la suite des récentes émeutes meurtrières. Le ministère australien des Affaires étrangères indique que les gens devraient encore reconsidérer leur besoin de se rendre en Nouvelle-Calédonie, mais les zones autour des hôpitaux et des hôtels sont sûres. Les dirigeants du groupe G7 qui regroupe les grandes nations affirment qu'ils soutiennent pleinement et soutiendront un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Dans un communiqué, le groupe affirme que l'accord conduira à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages, à l'aide humanitaire et à sa distribution dans toute la bande de Gaza et à une fin durable de la crise. Le président américain Joe Biden exhorte l'émir du Qatar à obtenir l'acceptation de l'accord par le Hamas. Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis étaient convaincus qu'Israël accepterait l'accord.
Endless conflict in Gaza in pursuit of some idea of total victory is not going to make Israel safer. We agree with Israel that Hamas cannot run Gaza. We agree with Israel on Israel's right and Israel's obligation to pursue Hamas for the terrorist attacks of October 7th. But an endless conflict without a political plan forward is just going to leave Israel bogged down in Gaza and is going to exacerbate the security challenges that they face.
Le Mexique a élu sa première femme présidente et également son premier président d'origine juive. L'autorité électorale du pays affirme qu'elle a remporté jusqu'à 60% des voix. Reportage Gwendolina Duval pour RFI.
Pour la première fois en 200 ans de République, je deviendrai la première présidente du Mexique.
La première mujer presidenta de México.
Légèrement émue mais fidèle à sa maîtrise habituelle, Claudia Sheinbaum a pris la parole après une journée d'élections très chargée et des résultats qui ont tardé à tomber. Après un mot pour ses adversaires, elle revient sur son programme et à nouveau fait la promesse d'un gouvernement de la continuité.
Notre gouvernement sera honnête, sans influence, sans corruption ni impunité. Ce sera un gouvernement de l'austérité, de la discipline financière et fiscale et avec l'autonomie de la Banque centrale du Mexique. Nous sommes démocrates et par conviction, jamais nous ne ferons un gouvernement autoritaire et répressif.
Tandis que les félicitations du président Andrés Manuel López Obrador et de la communauté internationale commencent à tomber, Claudia Sheinbaum est partie célébrer sa victoire sur la place du Zocalo avec ses partisans.
Un tribunal de grande instance du Pakistan a annulé la condamnation de l'ancien Premier ministre Imran Khan, accusé d'avoir divulgué des secrets d'État. L'homme de 71 ans avait été condamné à 10 ans de prison par un tribunal pour avoir rendu public un télégramme classifié envoyé à Islamabad par l'ambassadeur du Pakistan aux États-Unis en 2022. Imran Khan est en prison depuis août de l'année dernière et restera en prison pour le moment en raison d'une condamnation dans une autre affaire. Gohar Khan est l'avocat de Imran Khan et président par intérim du parti de Imran Khan. Il déclare qu'il travaille à obtenir la libération de son client.
This was actually an appeal that had been filed against the judgment of the trial court whereby Khan Saab had been convicted and sentenced to 10 years imprisonment that is so called the cyber case. Finally, the Islamabad High Court has allowed the appeal, has acquitted Imran Khan and Shah Mahmood Qureshi and has set aside the sentences. Now they should be released and they are supposed to be released. However, there is one case that is pending, that is the Iddat case. That could be decided any moment soon and once that is decided, then Khan Saab would be out soon, inshallah.
Les habitants de Delhi, la capitale indienne, forment de longues files d'attente pour aller chercher de l'eau auprès des camions-citernes en pleine pénurie d'eau. Delhi a récemment été frappée par une forte chaleur et la combinaison de la vague de chaleur et la réduction de l'approvisionnement en eau de la rivière Yamuna a conduit à cette situation. Les camions-citernes arrivent de manière irrégulière. Un habitant de Delhi, Ape Singh, affirme que cela a provoqué des bagarres.
Some people get water from the tanker, some don't. People keep fighting over water. People who don't get water fight. Water is the source of life, after all. It is a huge hassle for those who don't get water.
Le conservateur britannique Nigel Farage a annoncé qu'il se présenterait aux élections du mois prochain à la tête du parti réformiste populiste. Cette annonce a porté un coup dur au premier ministre sortant Rishi Sunak, mettant à mal la base électorale du conservateur à un moment où le parti est déjà à la traîne du parti travailliste dans les sondages. Nigel Farage a contribué à défendre le Brexit et aujourd'hui animateur de télévision. Il s'est présenté sans succès au Parlement à 7 reprises, mais reste l'un des hommes politiques les plus influents du Royaume-Uni. Nigel Farage, qui avait déjà déclaré qu'il ne se présenterait pas aux élections de juillet prochain, a déclaré avoir changé d'avis parce qu'il voulait défendre ceux qui croyaient en lui.
What I'm really calling for, and what I intend to lead, is a political revolt. Yes, a revolt. A turning of our backs on the political status quo. It doesn't work. Nothing in this country works anymore. The health service doesn't work. The roads don't work. None of our public services are up to scratch. We are in decline. This will only be turned around with boldness.
La police de Hong Kong a arrêté une 8e personne pour des publications sur les réseaux sociaux concernant la commémoration de la répression de la place Tiananmen le 4 juin. L'événement reste un sujet tabou en Chine continentale. Les dernières arrestations sont les premières à être effectuées en vertu de la nouvelle législation sur la sécurité nationale de Hong Kong qui impose une peine de prison à vie aux personnes reconnues coupables du délit de, je cite, « mise en danger de la sécurité nationale ». Isaac Cheng, militant pro-démocratie de Hong Kong à Londres, estime que la célébration du 35e anniversaire est importante.
I think we have to remind everyone, although the 4th of June massacre have been 35 years, but it never comes to an end. It is not a period. It is only a comma. There's so much things that keep on happening, including the suppressions towards the mothers and the freedom fighters and the people who are supporting democracy.
En Belgique, 23 jours de pluie au mois de mai, c'est un record depuis 1856. Et on passe à la météo pour ce mardi. En Australie, à Perth, quelques averses, maximales 21 degrés. Adélaïde, nuageux, 16 degrés. Melbourne, partiellement nuageux, 14 degrés. Hobart, quelques averses, 16 degrés. Canberra, partiellement nuageux, 13 degrés. Sydney, ensoleillé, 19 degrés, Brisbane ensoleillé, 21 degrés, Darwin ensoleillé, 31 degrés et à Alice Springs, il fera 18 degrés. Et voilà pour le journal de ce mardi 4 juin. Dans quelques instants, on retrouve Christophe Mallet pour le journal des sports.
Journal des sports, et on débute avec du tennis et les internationaux de France de Roland-Garros. On connaît les quarts de finale donc de ce tournoi dans le tableau masculin. Zverev affrontera l'Australien de Minaur. Très belle performance d'Alex de Minaur, donc l'Australien 11e tête de série, qui est donc en quart de finale du tournoi parisien. Alcaraz sera opposé à Tsitsipas. Yannick Sinner sera opposé à Dimitrov. À noter Yannick Sinner qui s'est défait du français Corentin Moutet au tour précédent. C'était en 4-7, mais tout de même un beau résultat pour Corentin Moutet. Une belle semaine à Paris. On l'écoute.
Même si peu de personnes, je pense, pensaient que je pouvais le faire, moi j'avais envie d'y croire. Et donc voilà, forcément déçu. J'avais l'impression qu'il y avait peut-être la place. Mais bon, après, aussi, c'est un excellent joueur. Je ne l'avais jamais joué. J'ai découvert aussi son niveau aujourd'hui, deuxième mondial. Il n'y a pas trop de place pour baisser de niveau de jeu. Ce qui m'est arrivé après, j'ai commencé très fort. Et après, j'ai baissé un peu. Et direct, le score a été sévère. Donc voilà, je suis fier de mon parcours. Je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'efforts. On a travaillé super dur pour en être là aujourd'hui. Et c'est une bonne étape déjà. Après, évidemment, il y a la déception. On a toujours envie d'aller plus. Moi, je rêve grand. Je pense que c'est important si on veut faire des grandes choses. Donc non, la déception, mais je suis quand même fier de mon parcours.
Corentin Moutet, donc, qui laisse sa place en quart de finale à Yannick Sinner. Et l'autre quart de finale, ce sera Rudd contre Djokovic, si cela joue, puisque Djokovic se dit incertain, touché au genou après son match marathon contre l'Argentin Cerúndolo. On l'écoute, peut-être un des plus beaux matchs de sa vie à Paris, en tout cas. C'est lui qui nous le dit en français dans le texte.
Il était le meilleur joueur sur les courts en ce moment. C'était un moment où je n'avais voir pas de solution pour son jeu, vraiment. Était impénétrable sur les courts. Donc j'étais vraiment en difficulté, grande difficulté. Mais vous m'avez donné énergie à deux partout, à le quatrième set. Dans ce moment-là, j'étais les différents joueurs. Donc merci, merci pour le soutien. Merci, merci de mon corps. C'était un de peut-être le plus bon match que j'ai joué ici avec, je sais pas, avec tous. Merci beaucoup.
C'était Novak Djokovic. Donc, dans le tableau féminin, la numéro 1 mondiale Swiatek sera opposée à Markéta Vudrosova, la Tchèque. Coco Gauff jouera la Tunisienne Ons Jabeur. Paolini, l'Italienne, jouera Rybakina. Et Andreeva jouera la numéro 2 mondiale Arina Sabalenka. Donc, pour une place en demi-finale de ce tournoi. On parle de football déjà, tout d'abord, pour vous annoncer que Kylian Mbappé, ah, c'est un secret de polichinelle, hein, a fait son choix. Et le club a fait son choix également. Il jouera donc au Real Madrid la saison prochaine. Il a signé un contrat jusqu'en 2029 avec le club madrilène. Club madrilène qui a d'ailleurs remporté la Ligue des Champions. C'était ce week-end, Antoine Grenier.
Oui, les madrilènes se sont offerts une 15e Ligue des Champions, la 6e depuis 2014. Victoire 2-0 sur les Allemands de Dortmund. Le Real a souffert mais n'a pas cédé face à une remarquable équipe du Borussia qui n'a pas tenu la distance. Dani Carvajal a ouvert le score de la tête sur un corner frappé par Toni Kroos, futur retraité dont c'était le dernier match en club. Le Brésilien Vinicius a fait le break et les hommes de Carlo Ancelotti ont profité, selon l'entraîneur du Real, du manque de réalisme adverse.
Dans le foot, quand on n'arrive pas à profiter de ces occasions, on s'expose à encaisser un but derrière. C'est vrai que les joueurs du Borussia ont mieux joué que nous, mais ils ont fait l'erreur de nous laisser en vie. Avec ce 0-0 à la fin de la première période, quand nous avons retrouvé notre équilibre et que nous avons mieux joué ensuite, nous avons fini par gagner ce match. Je suis vraiment comblé. C'est la 9e finale consécutive que le Real remporte et il y avait une vraie crainte cette fois de ne pas pouvoir gagner. Dortmund est une équipe redoutable. C'est très inconfortable de jouer face à cette équipe.
Et voilà donc Carlo Ancelotti, l'entraîneur content quand même du Real de Madrid. Pragmatique mais content. Un autre mot de football, l'équipe de Saint-Etienne, l'équipe légendaire, club légendaire en France. Saint-Etienne rejoindra l'élite de la Ligue 1, l'élite française la saison prochaine. On écoute Ibrahim Sissoko, l'attaquant stéphanois.
C'est ce qu'on avait décidé et l'histoire elle est écrite comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va bien profiter. On a bien donné toute la saison. Maintenant, c'est le moment de profiter avec tout le monde. Depuis l'arrivée du coach, il a instauré des règles et il nous a dit qu'on n'était pas à notre niveau. Et il nous a redonné confiance en nous. Et je pense qu'avec beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, on a réussi à faire ce gros parcours.
Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. On vous propose maintenant cette interview de Corinne Crouzet, quand la cuisine africaine rencontre la gastronomie française. Elle est avec notre collègue Bertrand Tungandamé.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
On va parler de gastronomie franco-africaine avec Corinne Crouzet de Coco Chef Traiteur. Corinne, bienvenue sur SBS French.
Merci Bertrand.
Vous êtes chef basé à Melbourne, spécialisé dans des mets franco-africains. En fait, une fusion des genres. Parlez-nous de vos spécialités et de ce que vous concoctez qui attire tant de monde.
Coco Traiteur, donc c'est un mélange de, on va dire, Afrique européen, le mélange de deux. J'utilise plus des épices africaines. J'ai fait mes cours de cuisine à Cannes en 2013. J'ai commencé à Cannes. J'ai évolué à Cannes de 2013 à 2022 parce que je suis à Melbourne depuis deux ans. Donc c'est un mélange, c'est une fusion de deux continents, on va dire.
Les cuisines africaines, c'est souvent des genres épicés, des plats qui mélangent beaucoup de saveurs et tout. Alors que la cuisine française, quelquefois, elle peut être un peu trop tatillonne sur ce qu'elle présente. Et comment vous fusionnez les deux?
Exact, c'est ça la différence. Alors, je peux concocter un mets, on va dire, pas du foie gras, on va dire du bœuf bourguignon. Mais quand en fait tous mes plats sont personnalisés, je les ai revisités. Même un plat africain est revisité. Vous voyez, je peux faire du tièpe, mais je ne veux pas faire du tièpe comme le tièpe sénégalais. Il sera revisité. Donc du coup, tous mes plats sont revisités. Donc il y a une petite touche africaine et une petite touche, on va dire, européenne, on va dire.
Une touche européenne, mais disons du riz jollof, comment est-ce que vous allez européaniser ça?
Le principe est le même. Je rajoute des végétaux. Peut-être que les gens ne mettent pas. Enfin, au Sénégal, on ne met pas. Je donne une touche de moi-même. Donc, je mets une petite touche de Coco Traiteur. Ça va être peut-être ce qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Je suis désolée si je massacre le riz sénégalais. Mais j'essaie de, pour que tout le monde ait accès à cette nourriture. Vous savez, la cuisine africaine, elle est très étiffée. Donc, du coup, je m'arrange à ce que tout le monde puisse y avoir accès, tout le monde peut goûter et aimer. Tout le monde ne mange pas le piment, évidemment. Donc, je m'arrange à ce que ça soit vraiment épicé, mais pas trop, et goûteux, et, pour que tout le monde aime, que tout le monde trouve son compte.
Ok, moi il y a un plat africain en tout cas qui vient d'une partie de l'Afrique que je connais très bien, dont vous êtes familier aussi, puisque bon, vous venez de pas loin de là. Le oui. Poulet à la moimbe, ça c'est quelque chose. Oh, quand je vais en France, en Afrique, première destination, restaurant africain, poulet à la moimbe, ça qui est, au Congo on en raffole.
Exactement.
Et comment vous allez le fusionner pour le rendre un peu plus européen? Ça c'est impossible à traduire ça en cuisine européenne, ça.
Exactement. Alors déjà moi le fumer, je vais pas mettre du poulet normal, je vais d'abord le faire fumer maison. Je vais le rendre un peu plus compact, ça va pas être pareil, et je peux rajouter des épinards ou des champignons pour changer, donc pour personnaliser. Mais ça restera du poulet à la moimbe.
Ça reste.
il faut goûter. Je vous convainc pas, mais il faut goûter.
Et,
il faut
aimer, il faut goûter, mais une fois qu'on a goûté, bon, on devient accro, on peut plus. On se lèche les babines, on se lèche les mains, ça c'est clair.
Exactement.
Parce que dans la plupart des pays africains, on mange avec les mains, on prend un morceau de foufou, on trempe dans la moimbe et voilà, on avale. Et ça fait partie aussi de l'expérience qui peut paraître exotique pour certains. Donc ça, ce sont deux mets que vous venez nous parler de la façon dont vous arrivez à le fusionner entre donc un mets africain, vous fusionnez le genre français, mais les ingrédients, parce que les ingrédients africains, c'est bon, on va au Woolies, au Coles, à Melbourne, ou même dans n'importe quel bon dans les grandes enseignes, il y a rien, tout est, il n'y a pas grand chose.
Je les fais venir. Mes épices voyagent. Je les fais venir de l'Afrique.
Ça doit être coûteux, ça.
Ça range. Et puis là, j'essaie de faire moi-même le chikwang maison, les bâtons de manioc maison, de poulet fumé maison. Je fais tout maison. Donc, j'arrive à trouver des produits sur place, quelques produits que j'arrive à trouver sur place et je compose avec.
Non, le chikwang, ça, c'est impossible. Le chikwang, c'est avec du manioc et puis c'est emballé dans des feuilles spéciales et qu'on fait fermenter d'une façon bien spéciale.
Et oui, j'en ai fait d'ailleurs.
Et ces feuilles-là qu'on utilise, qui poussent près des fleuves, qui ont une saveur, qui donnent une saveur particulière, une certaine consistance. Vous les trouvez ici en Australie?
Non, on trouve les feuilles de bananier. Il y a toujours un plan B, donc j'utilise les feuilles de bananier. Mais le goût, je vous promets, le goût,
d'accord.
Je vous ferai goûter.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se procurer vos spécialités? Parce que, bon, vous êtes traiteur, mais si on veut déguster avant de pouvoir peut-être vous inviter à faire du catering pour un événement, je dirais, une fête, un mariage ou quoi.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut goûter, avoir une idée de ce que c'est?
Tout à fait. Donc, nous avons une adresse Facebook, nous avons un numéro de téléphone WhatsApp, Instagram et une adresse mail. Coco Traiteur, traiteur avec S à la fin, @gmail.com. Ça, c'est l'adresse. Et le Facebook, c'est Coco Traiteur.
Dire si par exemple j'ai envie de goûter à votre chikwang, comment est-ce que je peux m'en procurer?
Je fais des dîners de dégustation chez moi. On organise des dîners de dégustation chez moi ou là où on fait les événements à Rock Band ou chez les gens, on se déplace, on va à domicile.
Et on ne peut pas vous commander une chikwang parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche maintenant tout d'un coup.
Si, on peut. Si.
Et comment ça peut se passer à Melbourne si je peux envoyer un Uber Eats, si vous m'envoyez de la chikwang?
Nous, on livre, hein. On livre quelques restaurants, donc on peut livrer, on se déplace, on peut livrer.
D'accord.
Et du moment qu'on est à Melbourne, donc voilà, tout est possible.
Non, mais si vous livrez pour des restaurants, est-ce que vous livrez aussi pour des particuliers?
Ah, bien sûr, oui. Oui, on fait des plats, on les fait des particuliers. On organise des dîners à domicile, on organise des anniversaires, des petits dîners à domicile, des fêtes. on organise tout ça.
Donc, vous organisez des événements réguliers, des journées ou soirées dégustation. Parlez-nous de ces événements et où ça se passe.
Le premier, ça s'est passé à Rockbound. Ça s'est très, très bien passé. On avait une cinquantaine de personnes. Il y avait une variété. Donc, j'avais fait un barbecue. Il y avait de tout. Bon, on pense que c'est aux végétariens, donc des légumes pour les végétariens. Du poisson braisé, le porc braisé, l'agneau braisé. Bon, on dit chez nous les mabokés, donc en patriote, les mabokés. Et donc voilà, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Et ça s'est très, très bien passé. C'est pour cela qu'on organise un autre événement ce 2 mars à Rockbound pour faire plaisir à tout le monde.
Oui, non, parce que la cuisine de l'Afrique centrale, c'est assez spécifique, quoi. C'est des mets spécifiques et c'est une cuisine qu'il faut absolument découvrir. Parce qu'ici, on a des restaurants ghanéens, il y a des restaurants nigériens, il y a beaucoup de restaurants éthiopiens, notamment à Footscray, à Fitzroy et tout ça. Mais très peu de spécialités d'Afrique centrale.
Ah oui, ça c'est vrai. Et je fais même du ndolé. Vous voyez, vu que mon mari est camerounais, donc voilà, je fais du ndolé. On fait un peu de tout, on pense à tout le monde. Donc, je ne fais pas que la cuisine, on va dire, congolaise. Déjà, il n'y a pas les feuilles de manioc, le pondou, le saka-saka. Mais je fais du ndolé. On fait le poisson salé, donc le makayabu, sauté. On fait un peu de tout pour que tout le monde se retrouve. On est varié. La cuisine est vraiment variée.
Le makayabu, c'est le cabillaud, hein.
Exact, le bacalhau, la morue fumée.
Oui, la morue fumée, c'est bacalhau au Portugal et au Brésil.
Voilà, bacalhau au Portugal,
On fait ça, non, je me souviens lors d'un voyage du bacalhau avec des haricots blancs ou différents mélanges.
Voilà, des pommes de terre sautées.
Ça c'est dégusté absolument.
On fait des jus maison aussi, donc ma signature c'est le ginger, le jus de gingembre, et on fait des jus de carotte, on fait le jus de bissap, tout est fait maison, pour accompagner nos mets, donc du coup on fait des jus maison.
Et avant de nous quitter, peut-être un mot de la fin, est-ce qu'il y a une chose que vous voulez ajouter à cette conversation?
Voilà, je demande juste à ce que les gens puissent venir découvrir, parce que il y a des gens qui sont peut-être réticents, qu'ils puissent venir découvrir à cette cuisine variée, là, on va dire la cuisine du monde, parce qu'il y a un peu de tout, il n'y a pas que les Africains, il y a de tout, honnêtement, on a des amis australiens aussi qui viennent manger, donc du coup, j'invite aux gens de venir déguster, de venir goûter à ces mets-là, ils ne seront pas déçus.
Caroline Crozet, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. On espère vous voir bientôt à l'une de ces journées dégustation.
Bien sûr, on s'est dit à très bientôt, Bertrand.
h 42 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on enchaîne avec les interviews ce mardi. On vous propose d'écouter Dominique Giraud, qui est maintenant ex-président de la FACI du Victoria. Il est avec notre collègue Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien aujourd'hui, dans le programme en français, on va parler à Dominique Giraud. Il est président, je crois, de la Chambre de commerce, la FACCHI, dans le Victoria. Bonjour Dominique.
Bonjour Christophe.
Alors je dis encore président parce que vous êtes sur le départ. Après un bon petit moment quand même en Australie. L'Australie, c'est un pays que vous avez appris à aimer. Vous êtes même devenu australien, je crois.
Australien en décembre dernier. Et ça fait maintenant presque 6 ans qu'on est en Australie. Donc c'est un pays qu'on aime beaucoup. Et j'ai ma sœur ici depuis 20 ans, j'ai ma cousine à Melbourne, donc c'est un pays qu'on aime énormément.
Et c'était important d'avoir la nationalité avant de partir, hein. Quand même, ça permet toujours de revenir, c'est quand même pas mal.
Alors, on a pris la nationalité pour nos deux filles aînées, surtout qui finissent leurs études à l'université de Melbourne. Et c'est vrai que c'est une opportunité pour nous de revenir en Australie dans, mm-hmm. dans les prochaines années.
Alors, on va parler un peu du travail de la chambre, parce que c'est donc la FACCHI, d'autres disent la FACCHI, il y a plusieurs façons de le lire en tout cas.
J'ai même entendu FACCHI.
La FACCHI, voilà.
Alors, la plupart des membres parlent de la FACCHI.
D'accord,
ça
la FACCHI.
C'est un peu italien. Et, mais... ouais.
Il y a deux C hein, quand même, ouais. Donc c'est cohérent.
Ouais.
Le rôle de cette chambre a quand même pas mal évolué au gré du temps. Vous êtes passé à travers le Covid, enfin, ouais. C'est quand même passé pas mal de choses. Cette chambre, elle est importante pour le lien à la fois, le tissu ici avec les Français. Pas mal de Français sont expats, travaillent dans les entreprises et c'est important d'avoir ce tissu social presque.
Oui, c'est un énorme tissu à travers l'Australie. Donc, c'est 450 membres. C'est un réseau de 18 000 personnes à travers l'Australie. Et c'est une communauté qui rassemble énormément d'entreprises, de grands groupes français, des PME et dans toutes les industries qu'on retrouve en Australie.
Une association, je ne sais pas comment on peut le donner, mais c'est en tout cas un organisme qui existe depuis très longtemps en Australie.
Oui, tout à fait. Ça a été fondé en 1899. C'était à l'époque où...
Avant même la fédération du pays.
Avant la fédération, et c'était à l'époque où l'industrie de la laine était en pleine boom. Et il y avait des échanges commerciaux entre la France et l'Australie. Mmh. Donc là, on a fêté les 125 ans de la FACCHI en mars dernier avec le nouvel ambassadeur Pierre-André Imbert. Donc c'était un très bel événement. Mmh. Ouais.
Et le rôle du président, parce que c'est quelque chose que vous avez exercé depuis un petit moment, c'est quoi le rôle du président d'une chambre de commerce, en tout cas pour le Victoria, vous étiez sur le Victoria.
Tout à fait. Alors déjà au niveau national, on a un président fédéral qui anime le board de directeur fédéral. Au niveau du local, le président du chapitre anime 14 counselors et puis une petite équipe opérationnelle pour organiser les événements.
Alors c'est il y a une hiérarchie, hein. Il y a le président, il y a les counselors après ont des certaines missions.
Tout à fait.
Ça veut dire que le tissu social, il est totalement couvert. Les entreprises, en tout cas les relations franco-australiennes, sont totalement couvertes.
Oui, parce que dans les counselors, on essaie d'avoir toutes les industries représentées, et en commençant par la partie plus diplomatique. Donc on a dans les counselors Myriam Boisbouvier-Wally, mm-hmm. qui est la consul honoraire générale de France à Melbourne. On a ensuite la vice-présidente Pascale Toussa qui couvre toutes les PME. Et on a différents dirigeants d'Engie, de Keolis Downer, de Mazars, de Total Energy, de Transdev, donc qui couvrent énormément d'industries.
Mm-hmm. Et après, il y a les membres, bien entendu.
Il y a les membres.
Donc on peut devenir membre si on est intéressé, on peut être membre individuel, on n'est pas là pour faire la publicité hein, de la chambre de commerce, c'est ouais. juste pour expliquer comme ça fonctionne. Expliquez-nous un petit peu l'intérêt, peut-être que si quelqu'un se demande pourquoi je devrais être membre de la chambre de commerce et de l'industrie franco-australienne, pourquoi ?
Pourquoi ? Alors c'est vrai que c'est, au niveau national, c'est un réseau exceptionnel, donc 450 membres, sociétés essentiellement. Et 18 000 personnes, et c'est un réseau de networking qui est exceptionnel. Donc il y a beaucoup de nos membres qui sont contents de pouvoir concrétiser des deals, des deals commerciaux avec d'autres membres. Et après, au-delà de cette relation de networking avec les membres, on a des événements. Donc dans le Victoria, on fait une soixantaine d'événements depuis 3 ans, donc une vingtaine par an. Et c'est des événements de très grande qualité qui permettent à chacun d'y retrouver son compte.
Notamment un que je vais animer d'ici quelques
oui.
semaines.
Merci encore à vous.
Non, mais ça va être un plaisir. On parle de vélo et de France. Hein. Qu'est-ce que
ouais.
je peux que être content par rapport à ça.
Ouais.
D'un point de vue personnel, pour vous, c'était important de joindre justement de cette membre au départ, de faire partie de ce tissu. Vous êtes sûrement fait des amis, peut-être des j'allais pas dire des ennemis, mais bon, c'est quelque chose de vivant aussi la chambre. Donc
ouais.
Donc est-ce que pour vous c'était important dès le départ quand vous êtes arrivé ici de vraiment jouer un rôle dans cette chambre?
Alors, avant d'arriver, j'étais conseiller municipal dans une ville à côté de Montpellier et j'ai apprécié le fait de m'impliquer dans la communauté dans laquelle je vis. Et quand j'ai rencontré les différents counselors de la FACCHI, je me suis dit, bah, tiens, ce serait sympa de rejoindre la FACCHI en counselor. Et suite au départ de la dernière présidente qui est partie en Hollande, j'ai eu différents appels du pied pour prendre la suite et lever la main pour en tant que futur président.
Et il y a des corrélations entre un conseil municipal et une chambre de commerce. Sur certains aspects, ça va fonctionner un peu pareil.
Complètement, parce que le conseil municipal est dirigé par un maire et prend les décisions pour que ensuite l'équipe opérationnelle mette en place et exécute et organise tous les événements.
Alors vous n'avez pas que la casquette de la Chambre de commerce, on en parle beaucoup là, mais vous faites aussi partie de Vinci Énergie. Et on parle juste rapidement quand même de Vinci Énergie et des entreprises françaises, qu'on va remettre votre casquette de la Chambre de commerce là. Dans l'énergie, on sent qu'il y a un influx français quand même. On sent que c'est une des technologies en France, entre guillemets, qu'on maîtrise, et on maîtrise l'exportation de des savoir-faire et de tout ce qui tourne autour de cette industrie.
L'énergie, les groupes français qui sont en Australie depuis des années, c'est des groupes comme Engie, Neoen, Total Energy et bien d'autres, et Vinci Energy en fait partie. Et ça illustre le marché colossal qu'il y a en Australie pour les 20-30 prochaines années, à la fois dans les renouvelables, mais aussi dans les infrastructures électriques, les réseaux électriques, et des grands projets de batterie, de stockage d'énergie. Donc c'est un énorme marché.
Mais pourquoi l'Australie justement? Parce que l'Australie a peut-être pris du retard sur certaines autres économies plus développées. C'est parce que il y a eu un ralentissement. Pourquoi justement? Parce que l'Australie est très connue pour déterrer des minéraux dans son sous-sol et de les vendre à un certain prix ailleurs. Mais peut-être on a un peu moins regardé ce qui était possible de faire ici sur le terrain.
L'Australie, depuis des décennies, produit l'électricité à partir de charbon. Et depuis 5-10 ans, il y a une politique énergétique australienne qui vise à passer du charbon au renouvelable. Et à l'horizon 2030, le premier Albanese a confirmé la stratégie et l'objectif de passer à 80% de l'électricité australienne renouvelable, ce qui est énorme. C'est un objectif très ambitieux. Mais ça booste vraiment le marché.
C'est faisable? Là, vous partez.
C'est ambitieux.
Vous partez, on peut en parler. C'est ambitieux, c'est faisable.
C'est ambitieux, mais plusieurs États sont en bonne route. Le Victoria a déjà fait beaucoup et continue à faire. Et les groupes français et franco-australiens dans l'énergie sont là pour ça, pour développer les renouvelables.
On sait qu'en France, il y a une vraie culture du nucléaire. C'est quelque chose qui a été développé, entre guillemets, apprivoisé, en tout cas pour le domaine public. En Australie, pas du tout. Enfin, on commence à y réfléchir un petit peu. On sait que l'opposition aujourd'hui est en train d'en parler dans ses contre-budgets, etc. Mais on est en 2024 et c'est un balbutiement de discussion.
Oui. Alors effectivement, c'est une technologie qui a été, je pense, depuis l'incident de Fukushima, remise en question. Là, la tendance mondiale, c'est que, vous l'avez vu à la dernière COP, le nucléaire, pour la première fois, est reparti avec le vent en poupe. C'est-à-dire d'ici 2050, beaucoup de pays ont des ambitions de relancer le nucléaire. L'Australie, c'est pas vraiment le cas et c'est un sujet un petit peu touchy.
Ouais, c'est tendancieux comme sujet.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a des pour et des contre. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Et le schéma directeur de l'Australie en termes d'énergie n'a pas pour l'instant entériné le nucléaire.
D'accord. Là, si vous regardez un bilan en Australie depuis un certain temps, vous n'êtes pas encore parti, mais c'est peut-être l'heure de commencer déjà peut-être à faire un petit bilan. Vous êtes plutôt content? Il y a des choses que vous avez pu faire différemment? Il y aura des projets aboutis, des projets qui ne seront pas aboutis?
Alors, d'un point de vue professionnel, donc côté Vinci Energy, j'étais content de participer à des grands projets qu'on a fait, notamment dans le Victoria, sur une centrale solaire et un compensateur synchrone qu'on a installé pour Total Energy. Après, on a finalisé une acquisition d'une société qui fait des sous-stations électriques, donc c'est des termes un peu techniques, mais on a Vinci Energy en Australie.
Faites-nous rêver.
Vinci Energy s'est bien développé dans les dernières années. Et on a fait aussi des très beaux événements à Vinci Energy avec la ministre de l'Énergie et l'ambassadeur pour ouvrir un centre de formation il y a quelques mois.
On y était d'ailleurs.
D'ailleurs, on merci SBS. donc un bel événement pour un centre de formation. Ça, c'est côté Vinci Energy. Vinci continue de se développer en Australie et à travers le monde, à travers différentes acquisitions. Et d'un point de vue Facci, oui, un bilan, je suis assez content des années passées ici en Australie. Et puis un chouette bilan pour la Facci parce que... Avec Paul, qu'on a recruté en août 2021, je pense qu'on a fait un bon choix d'avoir quelqu'un de très efficace, performant et qui fait un travail exceptionnel.
Et les enjeux pour la FACHI, justement, on va juste se concentrer un peu là-dessus. C'est quoi les enjeux de l'avenir? C'est bon, y a, bien entendu, je sais pas, mais je suppose que le nombre de membres est important, etc. Ouais. Mais d'un point de vue un peu plus large, les enjeux, c'est quoi? C'est de renforcer. On sait que, par exemple, à un moment ou un autre, la relation entre la France et l'Australie, elle a heurté un mur avec les fameux sous-marins. Bon, ça, il y a eu vraiment de l'eau qui est passée sous les ponts. On est vraiment reparti sur un nouvel élan. Il est là, l'enjeu, aujourd'hui, pour aussi la Chambre de commerce d'être un acteur de ça?
Je crois que sur cet incident, la FACHI a su rebondir, parce que le Naval Group est un des membres de la FACHI, parmi 450 membres. C'est un contrat parmi des milliers de contrats.
Ouais, il était gros quand même, ce contrat. Faut pas se voler la face quand même.
C'est vrai que ça c'était un incident diplomatique, hein, faut le dire. Mm-hmm. On était neutre dans cette histoire, donc on n'avait pas à se prononcer, mais on a su rebondir pour développer d'autres industries et justement par rapport à votre question des enjeux, c'est de recruter des nouveaux membres, mais dans d'autres industries. Donc on est actuellement près de 500 membres, mais on va viser progressivement 550-600 membres. À la fois on a différentes catégories de membres, des patron members, corporate et SME, et on tient à avoir cette diversité de membres pour que le réseau soit vraiment une belle mosaïque de sociétés franco-australiennes.
Et dans le nom FACHI, justement, il y a le nom franco-australienne. C'est pas juste une chambre de commerce et de l'industrie comme on pourrait trouver à Montpellier.
Ouais.
c'est vraiment un autre rôle.
C'est vraiment le French Australian Chamber of Commerce and Industry. Sous ma présidence, j'ai toujours insisté pour rappeler à tous les counselors et à l'équipe opérationnelle qu'on est là aussi pour servir les Australiens. Et dans les futurs counselors, on prévoit, et mon ou ma successeur aura aussi le besoin de recruter un ou plusieurs counselors australiens pour qu'on ait une représentativité des counselors français et australiens.
D'accord, vous avez toujours gardé un œil dessus, même loin, c'est...
Oui, ce sera un plaisir, et puis j'ai quand même beaucoup d'amis que j'apprécie, j'aurai mes deux filles qui seront ici pendant les prochaines années, donc je serai amené à revenir. Mais je garderai le lien franco-australien en France, puisque je souhaite rejoindre l'AFBA, Australian French Business Association,
d'accord,
qui est l'équivalent de la FACHI en plus petit en France, qui est en fait présidé par l'ancien président fédéral de la FACHI, Franck Ruibourg, que vous avez peut-être rencontré quelques années. Et donc, j'aurai plaisir à faire perdurer cette relation entre la France et l'Australie, mais depuis la France.
Mais plus petit, ça veut dire que ça peut que grandir, donc c'est bien.
Voilà.
Merci Dominique.
Merci.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Et en fin d'émission, un rappel d'un titre de l'actualité de ce mardi 4 juin. Les ressortissants étrangers pourront bientôt postuler pour les forces de défense australiennes. Et voilà, fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. À très vite sur SBS en français, ce jeudi prochain, à partir de 13h. Bel après-midi à toutes et à tous, et à très bientôt. Commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.
Hey. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.